Interview.
2 jours.
Moi, c'est Mathias.
Et vous êtes
en... Emelo.
Emelo.
Oui, on fait partie de l'association Les Mots Turbulents, qui est une librairie qu'on sort sur des événements.
On s'était croisés il y a quelques années, lors de Tipon-Tampon, à Die, notamment. Et du temps, de l'actualité est passé depuis. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, avec cette librairie ambulante?
Moi, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose vis-à-vis de moi, ce que je pense par rapport à ce qu'on fait entre il y a 4 ans et aujourd'hui. Je dirais que la dynamique, elle est toujours la même et que il y a d'autant, mais juste il y a une offensive réactionnaire d'autant plus importante et peut-être que ça a encore plus de sens que de participer un peu à cette, pour dire, bataille culturelle ou bataille idéologique ou bataille des idées. Et à travers les bouquins, j'ai l'impression qu'on essaie quelque part d'y contribuer.
Et sur votre stand, donc, de nombreux ouvrages traitant principalement de politique, hein, de société, d'écologie, de respect de l'humanité également, avec des maisons d'édition particulières, avec aussi des couvertures de grande qualité et des ouvrages de belles factures, je dirais. Est-ce que c'est possible facilement encore en France de pouvoir éditer, produire ces ouvrages ?
J'ai l'impression que c'est encore possible en France, mais que qu'il y a vraiment, un fossé qui se crée entre un peu deux structurations des maisons d'édition. Il continue à y avoir des très grosses maisons d'édition, mais qui sont de plus en plus verrouillées par des achats... notamment de Bolloré qui a racheté Hachette, qui était un gros pavé dans la mare. Et donc il y a des complications, j'ai l'impression, pour des grandes maisons d'édition, Fayard également, pour avoir des publications qui sortent un peu de cet air ambiant que mon collègue décrivait précédemment, mais qui continue à exister, des petites maisons d'édition indépendantes qui ont leur propre réseau de diffusion et de distribution. Et il y en a toujours de nouvelles qui se créent, il y a de très belles productions, il y a un très beau dynamisme de l'édition en France.
Est-ce que justement des auteurs, je dirais pas véritables, mais qui ont des choses forcément à exprimer ou à partager dans la formation, dans la connaissance, se rabattent plutôt sur ces petites maisons d'édition, et puisqu'il y a en quelque sorte un totalitarisme de la presse en France avec Bolloré.
J'aurais du mal à avoir une réponse un peu générale et documentée sur le sujet, mais j'ai l'impression de quand même voir, on travaille avec des maisons d'édition qui sont quand même pas très très grandes pour certaines, et j'ai quand même l'impression des fois de voir des noms qui sont pas des noms anodins, ou des textes qui sont des textes un peu qui ont un certain poids historique ou quelque chose qu'on retrouve pas dans d'autres maisons d'édition. Donc peut-être qu'effectivement il y a un petit phénomène, mais ça, je suis assez mal placé pour pouvoir le documenter, mais mon intuition dirait qu'il y aurait peut-être quelque chose comme ça qui se passe à la marge des auteurs un peu plus grands qui vont dans des petites maisons d'édition. Ouais.
C'est aussi une passion pour vous, le livre?
Carrément. Je reviens juste sur cette idée aussi de diffusion un peu annexe, qu'effectivement il y a une emprise de Bolloré et en même temps j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on est le pays où il y a le plus de librairies dans le monde, et du coup il y a un réseau de librairies indépendantes, donc, et avec le prix unique du livre qui est venu défendre clairement les petites librairies, et du coup en fait c'est pas des dizaines de milliers de librairies, en fait elles permettent aussi de rendre visible et de permettre à des maisons d'édition, enfin on voit qu'il y a un gros travail, souvent on passe devant des bonnes librairies, puis en fait on voit que les maisons d'édition qui sont mises en avant sont plutôt des maisons d'édition qu'on peut par ailleurs défendre, etc. Et du coup, il y a quand même ce réseau-là qui aujourd'hui continue à contrecarrer un peu les pouvoirs de nuisance de ces monopoles énormes qui se créent. Mais ça reste. Et après, la question du livre, j'ai l'impression que l'un pour l'autre, si on a eu envie de créer cette librairie, c'est que On est tous les deux des grands lecteurs qu'on passe beaucoup de temps à lire et à discuter de ce qu'on lit aussi et à échanger avec d'autres. On partage pas ça avec plein de gens, je dirais, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas tous les deux ça nous fait un peu vibrer et du coup de pouvoir aussi triper autour de nouvelles découvertes, nouvelles maisons d'édition qui sortent et tout ça, et qui a un peu sur la table aussi des choix un peu différents, mais il y a des petites maisons d'édition, je pense à Tiny Party qui est une minuscule maison d'édition lyonnaise qui font des bouquins entre 4 et 10 euros le prix du bouquin. On sent que l'impression elle est un peu pourrie, qu'il n'y a pas vraiment un travail de maquette et tout ça, mais par contre leur but c'est de rendre accessibles les livres. Et il y a d'autres maisons d'édition, là une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Prouesses, édition féministe, qui la couverture elle est trop belle, le livre est très beau, ou Les Lisières, petite maison d'édition de Nyons aussi, où tout est en linogravure et tout ça, ce qui fait des bouquins plutôt cher par ailleurs, mais par contre il y a vraiment aussi un très bel objet, et de pouvoir avoir comme ça une variable autour des livres qu'on diffuse sur la table avec des maisons d'édition qui se veulent plus accessibles en termes de prix et des maisons d'édition qui travaillent aussi sur l'objet même du livre, et du coup ce que tu es un peu œuvrier là, enfin de comment dire, presque artisanal on pourrait dire, ça, je pense que c'est important aussi.
Votre librairie, quel nom a-t-elle?
Bon, avant elle s'appelait la petite agitée, et maintenant officiellement c'est les mots turbulents. Mais même encore nous, des fois quand on nous pose la question, on se trompe, on l'appelle la petite agitée. Des fois sur le programme c'est la petite agitée, des fois c'est les mots turbulents. Et comme en plus on se met un point d'honneur à ne pas mettre de l'énergie dans la communication, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'a pas de site internet, on n'a rien. Ça nous amuse plutôt, en fait, cette confusion.
Oui, parce qu'il y a la petite agitée à la griotte aussi, avec Tiffen.
Si on a décidé de un moment changer de structure, c'est que quand même ça brasse un peu d'argent, la librairie, et que du coup, si un jour il se passait quelque chose en termes de je sais pas quoi, de l'économie, on n'avait pas envie que Tiffen ait des problèmes au sein même de... ou vice-versa, on pourrait dire. Du coup, on a créé il y a un an une nouvelle asso qui s'appelle Les Mots Turbulents, il fallait changer de nom. Par ailleurs, la librairie, ça fait 10 ans quasiment qu'elle existe et qu'elle s'est toujours appelée La Petite Agitée. Oui. Et je pense que l'un comme l'autre, peut-être même moi un petit peu plus, mais qu'en tout cas, il y a un truc d'être... Moi, je continue à être fort je l'aime ce nom-là, de La Petite Agitée. Et en même temps, bon, on a créé une nouvelle structure, du coup, on s'adapte aussi. Mais bon, souvent, ça me va aussi que ça continue à s'appeler dans le langage vernaculaire La Petite Agitée et dans le langage légal auprès des maisons d'édition, Les Mots Turbulents.
Et quel âge avez-vous ?
Moi, j'ai 36 ans.
Moi, j'ai 34.
Juste une question par rapport à Tiffen. J'ai l'impression que vous êtes d'une grande sensibilité. Donc, il y a aussi un respect aussi d'autrui. C'est un peu ce qui se dégage aussi de cette librairie. C'est aussi de ramener un peu la notion de respectabilité entre soi.
Ben, j'ai l'impression que quand on brasse des sujets comme on les brasse avec la librairie, des sujets autour... certains sujets autour des questions de discrimination et tout ça, c'est des thématiques qui poussent de toute façon à se questionner en fait sur le rapport à l'autre, sur comment est-ce que on cale sur autrui des interprétations qui font barrière à la relation. Et du coup, c'est des thématiques qui de toute façon en fait apparaissent, et c'est un peu une pente glissante, on va dire. Voilà, quand on met un peu le pied là-dedans, si on veut vraiment le mettre, on est obligé de se poser certaines questions et de les mettre en application. Avec plus ou moins de succès.
Un truc aussi sur la question du respect ou de l'attention. Je pense que aux humains, on a fort envie de l'avoir, aux structures qui permettent de continuer au système de domination et d'oppression d'exister. Je pense qu'on en a beaucoup moins et que je pense pas que ni l'un ni l'autre on se considère fondamentalement, par exemple, comme non violent. Même si je pense qu'on croit très fort à une société sans guerre mais dans les rapports de force, dans ce qui se joue actuellement, on a aussi des livres qui ont envie de diffuser des cultures autour des questions de d'imaginaire autour du sabotage, des questions d'imaginaire autour de répliquer par la force. Je pense à des livres féministes avec des personnes qui viennent s'attaquer à leurs violeurs, par exemple, mais sans passer par la justice. Enfin, du coup, il y a des endroits où je dirais pas exactement qu'il y a une attention de tout temps à avoir un discours un peu comme ça pacifié ou très gentil, parce qu'en fait le monde tel qu'il est ne l'est pas, et du coup on accepte aussi un endroit de conflictualité et que ça nous tient à cœur, je pense.
Et peut-être Et peut-être juste pour compléter dans ce sens-là, très brièvement, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est où le système, où les institutions sont faibles avec les forts et forts avec les faibles. Et nous, justement, le courant de pensée dans lequel on se place essaye d'être fort avec les forts et plus tendre, et tendre avec les faibles, on va dire.
Quelle formation avez-vous au départ ?
On est tous les deux du métier du bâtiment. Moi, je suis maçon et j'ai pas de formation universitaire pour le coup.
Et vous avez arrêté la maçonnerie un peu ?
Non,
pas du tout.
Non,
moi, j'ai arrêté. Hein. J'étais maçon aussi. Okay. Et j'en avais marre de porter du lourd.
Ouais, non, je travaille dans le bâti ancien. Bon, finalement, c'est un métier où je gagne un peu d'argent. Du coup, j'ai pas besoin d'énormément travailler, je dois dire la vérité. Et du coup, ça me permet de dégager du temps pour d'autres choses. Et toi
Du coup, moi, je suis menuisier. Et ça permet aussi de pas travailler toute l'année. Mais j'ai une licence de lettres avant d'avoir...
Alors, je voulais savoir aussi, par rapport à l'actualité, j'imagine que des auteurs ou peut-être des illustrateurs ont envie d'exprimer aussi leur ressenti sur ce qui se passe par rapport à des phénomènes de société. Est-ce qu'il y a une réactivité assez rapide, justement, dans cette expression pour pouvoir être édité, notamment ?
J'ai l'impression qu'il peut y avoir certains ouvrages qui ont une forme de réactivité, mais que c'est plus, on peut dire, une des formes d'happening, c'est-à-dire de coup d'accélération qui est fait, mais que sinon, il y a quand même une latence, je dirais que ça se joue en 2-3 ans. C'est quand même un long travail, et puis il y a une dimension que moi je trouve intéressante dans le travail d'écriture, c'est que c'est un travail collectif, dans le sens qu'il y a un vrai travail avec les maisons d'édition de retour une fois que le texte, déjà une première version est envoyée. Donc on est sur des temporalités plutôt longues, et j'ai l'impression que oui, ça fait aussi un peu des fois des décalages vis-à-vis de l'actualité, parce que pendant un moment on a eu pas mal de livres sur les gilets jaunes, 2-3 ans après les gilets jaunes, ou qui traitaient plus la question du Covid, mais c'est un temps long. Le temps de l'écriture.
Et je pense que nous aussi, ça nous permet vis-à-vis de... Il y a eu, par exemple, pas mal de livres qui sont sortis un moment sur la Syrie. Et là, du coup, tout d'un coup, avec ce qui se passe en Syrie, de pouvoir nous se dire « Ah, vas-y, on va reprendre ces bouquins. On a grave envie de pouvoir essayer de traiter ces moments d'actualité. Pas forcément avec des bouquins qui viennent de sortir, qui sont dans un rapport très actuel. Mais en tout cas, de pouvoir se ressaisir de moments historiques actuels pour pouvoir... remettre à la fois une tradition historique, à la fois remettre à la fois du contexte et en même temps du passé aussi. Et du coup, bon, sur la question de Gaza aussi, d'essayer d'avoir un peu des œuvres de poésie, des journaux, des choses qui cassent le silence. Là, je pensais à la Syrie, voilà, c'était un peu les deux moments forts de ces derniers mois. Et du coup, on a essayé un petit peu, du coup, au sein de la librairie, même si c'était pas la question, d'intégrer quelques livres pour en tout cas pouvoir avoir. Un alignement un peu juste au temps présent, comme ça aussi. C'est pas une recherche tout le temps, mais on peut l'avoir.
Et puis, quand bien même ces ouvrages, une fois édités, il faut le faire connaître au public. Ça, c'est l'intérêt de votre stand, donc la librairie des mots turbulents. C'est sa mission de pouvoir peut-être porter à la connaissance du public les dernières éditions.
Oui, mais justement, en fait, il y a ce truc qu'on a aussi un rapport à l'actualité, que comme on fait ça bénévolement et qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'une librairie, qui a des locations de local, beaucoup plus de charges fixes, on a beaucoup de liberté. Et notamment, ça nous permet de ne pas calquer notre présentation. Enfin, les textes qu'on choisit ne sont pas calqués sur l'actualité. Et donc, en fait, on a des bouquins qu'on traîne depuis 10 ans, qu'on aime bien défendre, et que ça ne nous gêne pas de les avoir encore. Et donc, ce qui est plus compliqué pour une librairie à faire, parce qu'elles ont d'autres contraintes. Et donc, non, nous, ça va vraiment être le critère et assez les lectures qu'on a, nous, qui nous portent. Certaines qui sont très vieilles, et des livres qu'on essaie d'avoir lus en majorité, dont on peut parler, défendre, et qui pour nous font sens, qui nous sont pertinents.
Est-ce que votre rôle militant, il se limite, enfin, il se passe dans la librairie, mais est-ce qu'après, au niveau de l'action de terrain, je dirais, là vous êtes dans le terrain, mais à un autre niveau, à un niveau plus, j'allais dire presque plus social, est-ce que vous êtes rester dans votre domaine uniquement, dans votre sens militantisme, ouais. Voilà.
Ouais, c'est dur, pas, hein. Aujourd'hui, j'aurais un peu des complexités à dire exactement à quel endroit je suis en train d'agir de vrai dans le monde tel qu'il est. En tout cas, le moment où on avait la librairie à Cray, parallèlement, il y avait quand même la création d'un lieu qui s'appelait L'Hydre, il y avait le journal Ricochet, il y avait le carnaval, il y avait tout un ensemble de choses là où... des trucs de batucada, d'essayer d'arriver en manif en nombre, etc. Et du coup, un lien concret qui était aussi Et là, le fait d'avoir déménagé plusieurs fois ces dernières années, et du coup, de pouvoir toujours reprendre à zéro quelque chose, je dirais que c'est un petit peu, je me sens moins, en tout cas, implanté sur un territoire, et du coup, avec un petit peu plus de difficultés à l'endroit où j'habite, de pouvoir... me mettre, mais n'empêche que on continue à essayer d'organiser des temps de discussion, ça peut être des films, mais la librairie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui est un endroit où c'est un des endroits où je me sens le plus en possibilité de, mais avec un peu de regret aussi parfois, enfin
non, mais c'est
de regret, je sais pas, en tout cas ça me manque aussi un peu de retrouver des perspectives collectives avec du monde.
Et juste encore, les ouvrages que vous proposez, sont-ils d'une certaine intemporalité, de manière à pouvoir parler aussi à des futures générations? Est-ce qu'il y a aussi des catégories particulières que vous proposez? Est-ce qu'il y a un lecteur lambda, ou alors est-ce qu'il y a un public très différent qui vient vous voir?
Bon, public très différent, ça dépend où on place le curseur, quoi. Mais
je veux dire de préoccupations différentes, peut-être.
Oui, il y a quelque chose qu'on essaye de faire. C'est bon, après, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous caractérise individuellement, c'est Mélo et moi. C'est que d'avoir quand même de présenter une table qui présente une diversité d'enjeux de l'époque. Et de ne pas sectoriser ou d'aller un peu à contre-courant d'une forme de fragmentation qui peut avoir lieu dans les milieux militants, d'axer un militantisme sur une question plutôt qu'une autre. Et du coup, nous, on essaye avec la librairie aussi d'ouvrir un espace où plusieurs questions sont mises en dialogue les unes avec les autres. Et donc, je dirais, ça c'est assez... subjectif, personnel, je dirais le public un peu, je dirais pas cible, mais qu'on retrouve de fait factuellement, pragmatiquement à notre table. J'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui vont avoir plus approfondi certaines questions dans leur parcours et qui on l'espère, a une curiosité naissante de par la table de presse pour d'autres questions ou d'autres liens qui sont faits et tout ça.
Et après, suivant les événements aussi, je sais pas, là, le prochain événement on va se poser, c'est à la Blizzard par exemple à Diolfi. Bah là, on est beaucoup moins dans une configuration d'un événement strictement parlé politique. Et du coup, là, tout d'un coup, on se retrouve aussi avec des gens qui ont 20-25 ans, du coup, un peu plus jeunes que nous, et avec qui on peut avoir des discussions hyper intéressantes et chouettes. On se retrouve avec des gens qui viennent dire « Ah, trop chouette, une librairie qui t'attend, une librairie lambda », et qui arrivent et sont très étonnés de voir ce qui se trouve là, et qui se font peut-être attraper, et du coup, qui se retrouvent à repartir avec un ou deux livres, là où jamais elle n'aurait peut-être osé acheter ces mêmes ouvrages en rentrant dans une librairie. Enfin, et du coup, il y a des moments comme ça où on est vraiment pas que sur des moments politique, on aime bien on allait sur des festivals de vin nature aussi, c'était super, bon, ça crée d'autres moments, voilà, ça pourrait être un marché, ça pourrait être, et puis après on a aussi beaucoup de plaisir de se retrouver à des moments un peu plus pointus, et aussi les gens ils viennent chercher des choses un peu plus pointues, et je pense que on a du plaisir dans les deux moments, que ce soit un truc un peu plus introductif et un peu plus comme ça de rencontres, et des moments un peu plus poussés.
On va se revoir sur 10.
Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'un bon livre pour vous?
Je vais donner une réponse que je vais donner une réponse un peu perche. De mon point de vue, un bon livre, c'est un livre qui arrive à conjuguer, je dirais, la tête et le cœur, dans le sens où il y a une attention... que l'intention soit claire, que les mots soient justes et qu'il y ait une bonne articulation. Après, on a aussi, cette définition va aussi dans le sens où on a une forme de séparation, c'est que moi je lis beaucoup plus des essais, et Mélo a plus tendance à lire, enfin il lit aussi beaucoup d'essais, mais il est plus sur le volet fiction. Et du coup, ma définition va bien pour les essais, j'aime bien les essais où il y a du charnel, où le cœur se ressent aussi. Et c'est là que je trouve qu'il y a une forme de cohérence interne qui est percutante. Je n'aime pas trop les essais universitaires, par exemple.
Il y a aussi une mise en danger de l'auteur par ses essais, peut-être de se tromper, mais aussi d'indiquer ce chemin d'erreur pour la pensée.
Oui. Après, c'est ça qui est bien avec la méthode. On s'éloigne jamais tout à fait de la méthode universitaire. C'est ce qui fait la différence, entre, je vais être un peu taquin, mais entre un éditocrate ou quelqu'un qui va donner son opinion sur un plateau de télé à Thierry Larigot, ou quelqu'un qui va être dans une vraie démarche intellectuelle d'un essai. Ben, en fait, il y a des protocoles, il y a des manières de verrouiller, de justifier. Donc, s'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'hypothèse, c'est toujours indiqué comme des hypothèses et tout ça. Et je pense que ce n'est pas anodin de dire ça, parce que j'ai l'impression qu'on rentre aussi dans une phase où il y a une grosse confusion entre les personnes qui créent de la pensée, qui créent de la pensée nouvelle ou de la pensée structurée, et la personne qui donne leur opinion. Et je pense que c'est quand même important d'être toujours en capacité de faire la différence. Travailler pendant 15 ans sur un sujet, ça aura toujours plus de valeur que d'y avoir pensé 10 minutes avant le plateau, avant de rentrer sur le plateau. Voilà.
Et on peut remarquer la montée de l'extrême droite dans les médias et dans beaucoup de secteurs. Est-ce que dans ce secteur que vous pratiquez, celle de l'édition un peu en marge, est-ce que vous êtes vigilant aussi sur un aspect de l'extrême droite qui se revêtirait de cette espèce de littérature aussi? Et je ne parle pas pour vous, mais dans l'ensemble, est-ce que c'est un constat entre divers libraires en France? Est-ce que vous avez cette vigilance à ne pas induire peut-être ou à prévenir peut-être les lecteurs de ce qui est possible de lire ou pas, quoi? Est-ce que ça, c'est un combat?
Moi, je dirais que j'ai l'impression que c'est des choses où c'est un problème, je ne saurais pas comment le prendre et je ne sais pas. Mais par contre, quelque chose qui va un peu dans ce sens-là, c'est que je pense que il y a surtout, par exemple, les écrits d'extrême droite, par exemple le livre de Jordan Bardella, qui était extrêmement présent dans énormément de librairies.
Je ne parlerai pas personnellement de gens qui sont mis en avant. Okay. Je parle de gens qui sont plutôt en arrière-boutique, qui écrivent, qui sont des penseurs d'extrême droite, qui peuvent être justement portés à confusion dans des mentalités.
J'ai l'impression que ce qui est fou, c'est qu'à la fois, ils savent très bien jouer sur ce que Mathias disait, c'est-à-dire ce truc de non pas une réflexion à long terme, mais ce truc de la petite phrase qui fait qu'en fait, un livre peut être très, 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 très bien vendu sans avoir aucune analyse, aucune perspective et aucune recherche de fond. Et que j'ai l'impression que dans l'extrême droite, par ailleurs, il y a peu de théoriciens et peu de penseurs, ce qui les empêche pas de monter en fait. Ça veut pas dire que si on crée une analyse hyper pertinente, hyper intéressante, hyper fouillée, qui recherche vraiment un truc critique comme ça, ça ne rend pas plus désirables nos idées, nos valeurs. Enfin, du coup, c'est un combat un peu complexe comme ça, parce que ouais, voilà, je pense qu'il y a tout un rapport aux médias, un rapport à l'internet, un rapport au temps présent tout de suite, de l'immédiateté, de la réponse immédiate et du ressenti individuel, qui fait que en fait, pour avoir des gens qui écrivent des boosts totales et qui vendent leurs bouquins à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et pour le coup j'ai l'impression que l'extrême droite a très bien pris en compte les nouveaux outils et sait jouer avec ça, et par ailleurs en fait faut vraiment pas dénier le fait qu'il y a un appareil médiatique qui est à leur service aujourd'hui, et du coup en fait la plupart de ces livres là seraient sûrement très peu lus si derrière il n'y avait pas Bolloré et consorts qui sur leur plateau ne faisaient que parler de... Mais du coup j'ai l'impression peut-être ça ne touche pas trop avec la librairie.
Ouais, j'ai l'impression qu'il existe des petites maisons d'édition indépendantes qui auront une orientation clairement d'extrême droite ou complotiste, ou des choses, des idées un peu qui portent à confusion et qui pourraient... Mais j'ai aussi l'impression que en fait, l'écosystème des maisons d'édition indépendantes peut plutôt à tendance, on va dire, libertaire, même si... C'est large. J'ai l'impression qu'en fait, les idées d'extrême droite, on a tellement dealé avec depuis des décennies et des décennies qu'on les repère à des kilomètres et qu'il y a une autorégulation qui se fait. Et je n'ai pas l'impression de voir dans des maisons, peut-être de manière anecdotique, ça peut arriver à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas vraiment un phénomène qu'il y ait un peu des idées confusionnantes qui arrivent à s'intégrer dans cet écosystème de maisons d'édition, j'ai l'impression.
Peut-être un peu sur la question de la technologie, peut-être qu'il y a des endroits à cet endroit-là, sur les questions entre mouvement féministe, question du genre et la question de la technologie, de l'imbrication sur les corps. Il y a eu des moments un peu comme ça, où une maison d'édition comme PMO, technocritique, qui ont dit des choses très intéressantes par ailleurs, mais qui ont mis beaucoup de confusion sur et qui ont même soutenu finalement des féministes d'extrême droite aujourd'hui qui sont contre les questions trans, contre... Et du coup, bon, des fois, il y a comme ça, quelques petites maisons d'édition qui ont pu... qui entretiennent, je pense aussi aux éditions libertaires un petit peu, enfin, pas libertaires, aux éditions libres, enfin, mais du coup, je dirais pas que c'est tant de la confusion qu'il y a des endroits comme ça de grande conflictualité et bon, ouais, je...
Une librairie comme la vôtre et comme peut-être beaucoup d'autres en France, est-ce que pour vous cela rassure le fait qu'il y ait encore de l'intelligence?
Oui, mais j'ai l'impression que ce qui fait la différence entre le rationalisme et la rationalité, c'est qu'il faut aussi avoir conscience des limites de l'intelligence, de ce que ça peut créer, de ce que ça peut créer et ce que ça peut pas du tout créer. Et je pense qu'il faut pas du tout. Je trouve qu'il y a effectivement, on est une époque qui intellectuellement, et je la trouve assez intéressante, je la trouve assez vivifiante, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en fait, on voit bien que c'est pas ça qui permet d'avoir une prise sur le réel. Il faut que ça traverse les individus, la société, que ça crée d'autres choses bien, bien plus concrètes. Il faut pas trop s'emballer, de mon point de vue, sur...
Encore beaucoup de travail pour vous, alors.
Oui.
On peut vous trouver principalement dans tous les événements. Vous n'avez pas de... Vous êtes ouvert à tout type d'événements pour être présent.
En tout cas, les trois prochains événements où on va, c'est à la Blizzard à Diolfi, on va dans l'Allier où il y a un grand projet dans le renouveau extractivisme européen, il y a un grand projet de mine de lithium à Échassières dans l'Allier. Du coup, il y a un événement contre cette mine fin juillet. On pose la librairie là-bas aussi. Et on a un événement peut-être début septembre vers chez vous, là, à Saint-Dizier, pour une petite fête le 13 septembre. Voilà, bon. Mais voilà, on ne pourra pas dire plus de comment nous trouver parce que sinon on n'existe pas trop. Quoi.
Pour vous trouver, il suffit de... Vous avez quand même un point d'information de votre présence des endroits.
Non, ça pas du tout. Et je dirais, un des trucs qui est un peu trippant, c'est comme ça fait quasiment 10 ans qu'on a la librairie, il y a des gens, là, on parle avec une personne, je me rendais compte, ça fait 8 ans que je la rencontre que par le biais des bouquins. Et à chaque fois, on reprend des discussions. Et ce truc un peu décousu qui fait qu'on propose des livres, des fois les personnes nous proposent elles-mêmes des lectures, que du coup on s'influence, on s'offre de la matière, et que 2 ans plus tard, on vient de reprendre le point à l'endroit où on l'a quitté, mais avec tout ce qui nous a composé et fait évoluer. Et bah, je sais pas, des fois, il y a des moments comme ça, ça crée des trucs un peu magiques et hyper chouettes. Et je pense, ce truc de pas être dans un lieu précis de rencontre, mais juste de revoir des gens à travers le temps qui se souviennent de nous ou que nous on se souvient de elles, bah, ça fait un truc aussi que moi j'aime bien, un peu comme ça, où c'est pas. On se donne pas des rendez-vous, mais bon, par ailleurs, il y a des rendez-vous de fait qui se passent.
Mélo et Mathias, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Est-ce que vous auriez une petite proposition musicale pour finir?
J'ai envie de dire Moondog, parce qu'on en parlait hier.
Ah ouais, Moondog. Lequel morceau?
Je sais pas son nom, mais je pense que c'est le premier de l'album Germanière.
D'accord. Je tâcherai de le mettre. Merci et bonne journée.
Bonne journée.